question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Il est 9h01, bienvenue.
Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. On est ensemble pour une nouvelle semaine entre info et divertissement. C'est un plaisir de vous retrouver avec Julie. Rebonjour Julie.
Ciao belle.
Et avec le programme du jour, en effet, si vous prévoyez d'aller en Italie, si vous aimez ce pays, cette culture, pourquoi ce conflit diplomatique du moment avec la France? Paris qui a rappelé jeudi, provisoirement pour consultation, son ambassadeur à Rome, et les relations diplomatiques restent extrêmement tendues. Alors on va voir finalement comment on peut expliquer cette crise diplomatique. Qui a tort, qui a raison dans ce dossier? Quelles conséquences, surtout pour les touristes que nous sommes et pour les Européens que nous projetons d'être encore. Je reçois en studio Frédéric Mitterrand, Alberto Toscano, Christian Estrosi, trois amoureux, trois spécialistes de la France et de l'Italie. Et puis à 10h, j'accueille un grand médecin ORL, il s'appelle Jean Habitbol, il est phoniatre, il publie Voix de femme, il connaît les plus grands chanteurs de Céline Dion à Véronique Sanson et il va nous raconter ses voix hors normes. Ça commence avec Edith Piaf, la Calas, mais aussi avec notre maman, avec notre institutrice. Qu'est-ce qui se cache derrière les timbres de ces femmes ? Un tour de la question entre science et émotion ce matin. Et toutes vos réactions, on les attend au standard dès maintenant, Julie.
Au 39-21 et pour les réseaux sociaux, le hashtag Europe 1.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et cette crise inédite depuis 1945 entre la France et l'Italie, alors on va voir si on doit tout de suite apaiser les choses. Bonjour Frédéric Mitterrand.
Bonjour Wendy.
Merci d'être avec nous, vous qui avez été directeur de l'Académie de France à Rome, Villa Médicis, la fameuse, vous avez connu cette empreinte culturelle, diplomatique, politique aussi forte. Alberto Toscano avec nous également. Bonjour Alberto.
Bonjour.
Journaliste, politologue et écrivain, vous qui êtes correspondant en France du quotidien Corriere della Sera.
Alors,
et...
Excusez-moi, de la radio radicale. Peut-être un jour de Corriere della Sera.
Ah, j'ai dit quoi? J'ai dit... C'est pardon. Ah, pardon, pardon. Et Christian Estrosi qui est avec nous. Bonjour Christian.
Bonjour.
Bonjour maire de Nice. Merci d'être avec nous parce qu'évidemment votre,
merci, Wendy.
Votre ville est au cœur, j'allais dire, de ces turbulences du moment. Vous allez nous dire justement comment les habitants vivent et ressentent ce mouvement. Car il y a un mouvement social, celui des Gilets jaunes, qui peut enrayer les relations diplomatiques. On rappelle le tout dernier épisode en date, Alberto Toscano. L'Italie qui a fait la une mercredi du journal La Nouvelle République parce que le vice-premier ministre Luigi Di Maio est allé rencontrer à Montargis dans le Loiret une délégation gilet jaune.
Oui, exactement. Et ça a été une ingérence. Et ça a été une ingérence inopportune. Et le mouvement 5 étoiles est isolé en Europe. Mmh. Et il est en difficulté en Italie. Si peut-être je pourrais... Plus tard, je dirai quelque chose au sujet des résultats électoraux de cette nuit,
oui. Hein,
très important dans une région italienne. Mais pour revenir à cette chose, il ne fait pas de doute, à mon sens, que le mouvement 5 étoiles et en particulier M. Di Maio, vice-président du Conseil italien, ont fait une entorse aux relations diplomatiques normales entre pays amis et alliés en allant rencontrer le représentant des Gilets jaunes.
Sans informer l'ambassadeur d'abord d'Italie en France, ni le gouvernement.
En même temps, mon opinion est que le retrait provisoire, évidemment, de l'ambassadeur de la part du gouvernement français a été un acte exagéré et tout à fait inopportun. Et cette escalade franco-italienne n'amène rien de bon. Et à mon sens, c'est une gesticulation de campagne électorale dans les deux pays dont le prix peut être payé par les pays eux-mêmes et par l'Europe.
Intéressant, Frédéric Mitterrand. Je peux vous demander
tout de
suite votre...
Je voudrais rappeler simplement une chose, c'est qu'en fait, le sentiment populaire italien n'est pas aussi francophile qu'on le dit. Mm-hmm. La France, c'est la France de François Ier qui faisait des guerres en Italie. C'est la France de Napoléon qui a ravagé l'Italie à plusieurs reprises. C'est la France qui fait payer l'unité italienne en piquant au passage la Savoie et Nice. Et c'est dans le sentiment populaire italien, il y a un attachement à la France. Mais la France n'est pas simplement un pays libérateur et remarquable. Et quand Mussolini profitait du sentiment populaire, il faut rappeler que dans les grandes manifestations fascistes, la foule criait « Hanoï, Hanoï », c'est-à-dire « c'est à nous, c'est à nous ». Nice, la Savoie, la Corse, Djibouti, la Tunisie. Et donc il y a quelque chose, alors je ne dis pas que Salvini est fasciste, pas du tout, mais Salvini est l'actuel vice-président, en fait, l'homme le plus important du gouvernement italien aujourd'hui. Salvini joue beaucoup sur un arrière-fond de mémoire populaire. Quant à Di Maio, il cherche chez les Gilets jaunes la même chose que ce qui a créé en fait l'avenir de son parti ou la vie de son parti. Donc il y a dans tout cela, il y a un contexte passionnel qui est beaucoup plus ancien et beaucoup plus fort qu'on ne pourrait l'imaginer. Mais peut-être que je me trompe. Oh
bah, j'imagine, Christian Estrosi, que vous le ressentez, italien d'origine et maire d'une ville qui fut en effet italienne et française depuis 1860. Comment aujourd'hui les habitants de votre ville ressentent ces tensions des derniers mois entre l'Italie et la France, Christian Estrosi?
Il surpasse totalement ses tensions.
Tant mieux.
D'abord, Nice est sans doute la première ville italienne de France. Je vous rappelle qu'au début du siècle dernier, 22% de la population niçoise était italienne. Et lorsque je dis italienne, ça veut dire que 80% du reste de la population niçoise était d'origine piémontaise.
Oui.
Puisque nous n'avons jamais été italiens, contrairement à ce qu'indique Frédéric, que j'aime beaucoup par ailleurs.
Moi aussi.
mais c'est parce que c'est un Niçois qui s'appelle Garibaldi qui a contribué à l'unité italienne que nous sommes directement passés du royaume de Piémont-Sardaigne au statut français.
Oui.
Sans jamais passer par la case Italie.
D'accord.
Les Piémontais étaient des Italiens quand même.
Non, ils le sont devenus après.
Bon, d'accord.
Moi, je suis piémontais. Alors...
bon. C'est-à-dire que les parlementaires niçois ont siégé d'abord au Parlement de Turin, et jamais à celui de Rome, et ensuite à celui de Paris. Et aujourd'hui, s'il est vrai que je suis plutôt bien accueilli en tant que représentant de la ville de Nice parmi toutes nos villes jumelles et dans le monde entier, il y a bien un endroit où je suis invité à réclamer en permanence. C'est en Italie, qui est notre pays frère, et nous sommes aujourd'hui extrêmement liés. Il n'y a pas un seul événement culturel, économique.
Ça, on va en reparler, Christian Estrosi. Mais je vais faire réagir l'homme politique que vous êtes. Quand Di Maio arrive à Montargis pour dire le vent du changement a franchi les Alpes, on est dans de l'ingérence politique, du moins morale. Et c'est une ingérence que le président ne peut pas laisser passer.
Mais je comprends que le président français ait cette réaction face à cette ingérence italienne. En même temps, j'appelle à la plus grande prudence. Vous savez, les coups de menton des gouvernements, parmi les Français et les Italiens, qui entretiennent des liens d'amitié, de fraternité, ça nous dépasse un peu. L'homme politique que je suis ne peut pas accepter l'ingérence italienne, mais en même temps n'a pas envie que nous ayons une posture vis-à-vis de nos amis italiens en tant que Français. Là où les Italiens désapprouvent, j'en suis sûr, majoritairement la position du gouvernement italien, qui d'un coup d'un seul, en même temps, est une attitude de réprobation à l'égard de la France. Voilà pourquoi j'entends prendre des initiatives.
Et vous allez nous en parler juste après la pause, si vous voulez bien, Christian Estrosi, maintenant que ce préambule est posé. Christian Estrosi, Frédéric Mitterrand, Alberto Toscano réagissent à cette relation complexe du moment entre la France et l'Italie. Rappel inopportun, nous disait Alberto Toscano, journaliste et écrivain en France, de l'ambassadeur de France en Italie. On va revenir, jeu dangereux ou pas. On refait un petit peu le fil aussi de ce qui fait mouche entre l'Italie et la France ces derniers mois. À tout de suite sur Europe 1.
France
Italie, pourquoi une rupture diplomatique aujourd'hui? On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités.
Avec Alberto Toscano, journaliste, politologue, avec Christian Estrosi, maire Les Républicains de Nice, avec Frédéric Mitterrand, ancien directeur de l'Académie de France à Rome. Frédéric Mitterrand, vous qui avez connu le bassin culturel franco-italien, la Villa Médicis, je vais vous demander votre réaction aussi au rappel de l'ambassadeur de France en Italie. On a interrogé nos auditeurs qui, à 56% sur Facebook, doutent de l'opportunité de ce geste. Qu'en pensez-vous?
Alors, Monsieur Toscano, lui, doute de l'opportunité de ce geste, ce que je peux très bien comprendre. Si vous lisez Hubert Védrine, lui, qui est quand même un homme très expérimenté, il vous dira que c'est la réponse adéquate.
D'accord.
Que la brutalité des attaques du gouvernement italien contre la présidence française actuelle est telle qu'il fallait marquer un coup d'arrêt. Bon, moi, je n'ai pas, j'ai pas de jugement là-dessus. Je sais simplement que, compte tenu du climat général que je me suis permis de rappeler tout à l'heure, il faut bien voir qu'on est effectivement dans une période d'accélération permanente entre les difficultés qu'on a eues avec Fincantieri entre la France et l'Italie. Quand on voit le retour savamment orchestré de Battisti du Brésil, alors que Salvini, le vice-président du Conseil italien, ministre de l'Intérieur et l'homme fort du gouvernement, insiste sur le fait qu'il y aurait encore des anciens terroristes que la France refuserait de livrer, ce qui est le contraire absolu du consensus auquel on était arrivé.
Et ce contentieux sur l'activiste français d'extrême gauche est vraiment très très nourri. Hein.
Pardon.
Ce contentieux autour de cet activiste d'extrême gauche, voilà,
oui,
est encore très nourri.
C'est ce qu'on a appelé la doctrine Mitterrand, qui était que quand des terroristes n'avaient pas de sang sur les mains, qu'ils se repentaient en quelque sorte, eh bien, on n'allait pas les extrader. Ça concerne une quinzaine de personnes, et ça. Il y avait un accord de l'Italie et ça n'a pas été décidé unilatéralement, ça a arrangé tout le monde. Et en fait, le vice-président du Conseil, Salvini, revient là-dessus maintenant. Donc tout est sujet de tension, tout est sujet de problème, mais il est certain aussi que quand le président Macron fustige les populismes en Europe en parlant de lèpre nationaliste, évidemment, il agite le chiffon rouge en face de Salvini. Donc tout est éruptif.
Absolument. Bonne qualification à Alberto Toscano avant Christian Estrosi.
Monsieur Védrine dit que c'est la bonne réponse parce qu'il y a eu une ingérence italienne en France. Je voudrais demander à Monsieur Védrine si la décision du président Mitterrand, début des années 80, d'héberger en France des centaines de terroristes de Brigade Rouge, y compris plusieurs assassins, une bonne partie ne se sont jamais repentis, dont Cesare Battisti, qui ne s'est jamais repenti, condamné. Si les Italiens avaient refusé d'extrader à la France Colonna, s'il avait donné asile politique, entre guillemets politique, à M. Colonna, après l'assassinat du préfet Erignac et sa condamnation en France, qu'est-ce que la France aurait fait? Pas rappeler l'ambassadeur, elle a lancé des bombes atomiques.
Bien sûr, on peut comprendre ce passif-là, mais M. Védrine n'est pas là pour répondre, monsieur.
Où les ingérences françaises en Italie sont les bienvenues, et dès qu'il y a une ingérence injustifiable, comme celle de M. Di Maio, que je condamne de façon très déterminée, italienne en France, alors on fait le retrait de l'ambassadeur.
Oui.
Je pense que de la part française, il faudrait réfléchir un peu plus.
En tout cas, tout est sujet de tension, vous le disiez bien Frédéric Mitterrand, avec évidemment les européennes en ligne de mire et l'Italie qui vient chercher des voix en France. On y revient, allié objectif par l'intermédiaire de ses candidats populistes de Marine Le Pen. Écoutez, Matteo Salvini, c'était début janvier. Je vous fais réagir ensuite, Christian Estrosi.
J'espère que les Français pourront se libérer d'un mauvais président à l'occasion du 26 mai, où les Français pourront enfin reprendre leur avenir, leur destin, leur fierté, mal représentée par un personnage comme Macron.
Mal représentato da un personaggio come Macron.
Voilà l'image du président qui est véhiculée en ce moment en Italie. C'est compliqué, Christian Estrosi.
Ça me fait penser, en fait aux paroles du pape en face de Napoléon. Oui. Napoléon s'agitait devant le pape. Alors le pape lui dit « comediante ». Et puis, Napoléon continue à s'agiter et à menacer le pape. Alors, le pape lui répond « tragediante mmh. ». C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi beaucoup de mots dans tout
oui,
ça.
Oui, de mots, hein, mais qui blessent, Christian Estrosi,
oui,
évidemment.
De mots qui blessent. Oui,
oui, c'est, non, mais ces propos à l'égard du président français sont tout à fait inacceptables.
Ben oui.
En même temps, la France, qui veut être leader sur ce que nous pourrons sauver de la construction européenne et même essayer de franchir une nouvelle étape oui. pour la construction d'une véritable Europe politique, a plusieurs manières de réagir face à cela. Effectivement, soit de transformer ceci en face-à-face entre la France et l'Italie, mm-hmm. soit au contraire de prendre à témoin l'Union européenne et de demander à celle-ci de se montrer solidaire sur un jugement collectif. Moi, c'est la voie que je préférerais. Au moment où nous voyons qu'il y a 70 milliards d'échanges commerciaux entre nos deux pays, que la France est le deuxième client et le deuxième fournisseur de l'Italie juste après l'Allemagne, et que l'Italie est le troisième fournisseur et quatrième client de la France, je me dis qu'au plan industriel, au plan des exportations automobiles, où nous sommes l'un et l'autre leader chez l'autre, il est important que l'on soit attentif à tout cela, parce que ce qui provoque un agacement politique et gouvernemental, d'un autre côté, fait que les capitaines d'industrie font que les hommes et les femmes de culture, que les hommes et les femmes engagés pour de grandes causes au plan sportif ou au plan caritatif. Moi, j'ai 22 000 résidents secondaires italiens à Nice, 7 000 Italiens résidents principaux, 734 entreprises enregistrées.
Bien sûr, il ne faut pas que cette relation rejaillisse sur votre quotidien.
Je les rencontre au quotidien. Oui. Et très sincèrement, ils observent tout cela comme les Français que je côtoie tous les jours observent tout cela en se disant « rien ne viendra ternir nos relations, notre amitié, nous ne laisserons pas quelque disposition gouvernementale que ce soit abîmer une relation qui est tellement importante tant au plan économique et social ». Qu'au plan de ce qui fait notre identité commune, notre histoire commune, notre culture commune.
Bien sûr, mais vous avez, pardon, vous coupez Christian Estrosi, mais il y a eu quand même un fait samedi soir, c'est que certains gilets jaunes, dont l'un des leaders, Maxime Nicole, ont tenté d'organiser un mouvement vers l'Italie. Lui, il était allé à San Remo pour rencontrer des gilets jaunes, il a voulu emmener avec lui un cortège pour emmener un petit peu ce conflit de l'autre côté des Alpes. Il y a aussi, vous voyez bien, ces échanges. Ouais, c'est de l'écume, ça, c'est de l'écume.
Oui, mais enfin, il ne représente rien par rapport à une communauté de destin, par rapport à une pensée commune et collective qui est tellement plus importante et qui se traduira d'ailleurs, je n'en doute pas, dans le grand rassemblement que j'organiserai sur la place Garibaldi, Nicois qui a fait l'unité italienne et qui est le père fondateur de l'idée de république sur la planète entière. Vendredi prochain.
Grand rassemblement transfrontalier. Frédéric Mitterrand, vous voulez réagir.
Je veux dire d'abord que Christian Estrosi, comme d'habitude, parle de raison et d'apaisement. Il évoque effectivement tout ce qui nous rapproche et il évoque aussi l'avenir, le moment où on va enfin pouvoir tourner la page. Et en ce sens, il est, une fois de plus, un vrai Niçois. C'est-à-dire, il porte la parole de la République française, mais il porte aussi la parole du patrimoine de Nice. Il ne faut pas oublier de rappeler que Nice a été aussi une ville refuge pour les antifascistes pendant toute la période du fascisme.
C'est le cas de mon grand-père, Frédéric,
d'ailleurs. Oui, par exemple. Et que, par ailleurs, c'était la ville favorite pour ses vacances. Et après la période de l'exil, du regretté président Pertini, qui allait toujours à Nice dans sa maison.
Absolument.
Donc, il y a, tout ce qu'a dit Christian Estrosi, c'est à partir de ça qu'on pourra tourner la page.
C'est à partir de ce grand rassemblement transfrontalier qu'on pourra proposer une désescalade.
Tout à fait d'accord. Tourner la page en regardant les fondamentaux, cette collaboration extraordinaire, ce besoin de collaboration franco-italienne extraordinaire, parce que si on veut faire le poids vis-à-vis de l'Allemagne, ce n'est qu'en intégrant de plus en plus France et Italie. Et le cas de Nice est extraordinaire. D'ailleurs, moi, j'étais témoin au mois de juin, d'une des initiatives du maire Estrosi, qui a été le salon du livre à Nice, qui a été un énorme succès. Mm-hmm. Et là, ça a été aussi un pôle franco-italien. Donc, le rôle de Nice ne fait pas discussion. Et je me permets de souligner le fait que, quand je parlais de l'initiative du rappel de l'ambassadeur, pour laquelle la France a de bonnes raisons. Et la France a une grande partie de raisons sur cette polémique. Au moins, les trois quarts des raisons sont du côté
simplement,
français.
J'ai
seulement utilisé le mot inopportun.
Inopportun, absolument.
Inopportun, rien d'autre que ça.
Avant de libérer Christian Estrosi, je voulais que vous rappeliez, Christian, ce grand rassemblement transfrontalier. Vous appelez donc les populations à se conjuguer. Ce sera vendredi prochain.
Oui, absolument. Il y aura des maires italiens en grand nombre, des personnalités modérées italiennes, politiques, qui ont un grand parcours, un ancien président du Parlement et d'autres, et puis de nombreuses personnalités françaises du monde économique, industriel, culturel des deux côtés. Et puis sur la place la plus emblématique, la place Garibaldi.
Devant,
voilà.
Merci beaucoup Christian Estrosi. Nice à 30 km de la frontière italienne. Merci d'avoir rappelé ces principes républicains que soulignait à l'instant Frédéric Mitterrand. On poursuit avec nos invités et vos témoignages. N'hésitez pas à décrypter ce qu'on peut appeler une crise diplomatique, en tout cas du moment, avec un passif. On va revenir notamment sur le dossier des migrants. Comment cette tension s'est réactivée ces derniers mois entre notamment Matteo Salvini et Emmanuel Macron. A tout de suite sur Europe 1.
Nous parlons de cette crise inédite entre la France et l'Italie. En fait, ce sont les Gilets jaunes qui sont à l'origine de cet épisode, puisque Luigi Di Maio, numéro 2 du gouvernement italien, est allé rencontrer à Montargis, dans le Loiret, une délégation de Gilets jaunes, alors que personne n'était au courant au gouvernement français.
Absolument. Mais avant cela, Julie, des mois de tensions depuis l'arrivée au pouvoir, notamment de la coalition entre la Ligue, le mouvement 5 étoiles, après les élections générales italiennes de 2018. Il y a cette crise qui couve entre la France et l'Italie et qu'on décrypte ce matin avec Alberto Toscano, journaliste, politologue et écrivain. Vous vivez en France depuis combien de temps, Alberto Toscano ?
33 ans.
33 ans.
Je suis correspondant en France. Alors.
Voilà. Donc vous connaissez très bien ces relations. C'est un peu je t'aime,
mais
moi non plus.
Mais j'ai gardé l'accent, vous voyez.
Mais oui. Mais oui, mais parce que vous faites des allers-retours dans votre pays. Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture, vous le savez bien, qui a dirigé l'Académie de France à Rome. Ça a commencé, cette histoire, vraiment, dans les faits les plus profonds, avec le président Macron qui réagit au sort du bateau de migrants, l'Aquarius. Oui. Ballotté en Méditerranée, rejeté par l'Italie. À son bord, 630 hommes, femmes et enfants, qu'on n'oublie pas. Et Emmanuel Macron dénonce à ce moment-là, je cite, la part de cynisme et d'irresponsabilité du gouvernement italien. Alors, on parlait d'ingérence tout à l'heure de la part des Italiens. Là, on était quand même dans une leçon de morale.
Moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que je ne connais pas suffisamment le dossier. Il est certain que l'histoire de l'Aquarius est une affaire absolument tragique quand on pense à tous ces pauvres gens qui étaient sur ce bateau et qu'on renvoyait à droite et à gauche. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que l'Italie s'est sentie, à juste titre, totalement isolée et abandonnée.
Hein, oui.
Avec le problème des migrants depuis déjà...
La chute de Kadhafi.
Depuis longtemps, oui. Depuis la chute de Kadhafi. Ça, c'est une première chose. Et avec, pour parler vulgairement, ce casino, ce bordel effrayant qu'il y a maintenant en Libye, aux portes de l'Italie, et qui fait que l'Italie a subi de plein fouet l'arrivée des migrants. Et l'Europe, mais l'Europe, c'est à regarder ailleurs.
Oui.
Et notamment... le grand pays ami, allié, etc., la France, qui a donné l'impression de se défausser complètement sur les Italiens.
Et puis, de faire une leçon de morale, Frédéric Mitterrand.
Il y a un sentiment d'abandon total auquel se rajoute une leçon de morale. Donc c'est insupportable. Mmh. Quand vous êtes abandonné, quand on vous dit en plus c'est de votre faute, d'une manière totalement injuste, c'est insupportable. Alors pour la population italienne, pour une grande partie de l'opinion italienne, cette situation explique le mécontentement aussi.
C'est
pour
ça qu'on a...
Salvini peut surfer tranquillement.
Et on a entendu « qui sème le vent récolte la tempête », Alberto Toscano.
Non, je suis totalement d'accord avec Frédéric Mitterrand. Il y a eu ce sentiment de frustration italienne par rapport à la France, par rapport à l'Europe.
Mmh.
C'est-à-dire, entre France et Italie, la relation n'est jamais normale. Dans le sens qu'on est vraiment... C'est une relation unique. On est frères. On est... Et dans une famille, quand vous disputez, quand vous êtes déçus, c'est jamais normal.
Monsieur Toscano, toujours... vous connaissez la phrase célèbre, les Français sont des Italiens de mauvaise humeur.
Exactement.
Bon, maintenant, ce sont les Italiens
qui sont des Français souriants, Cocteau,
Cocteau,
oui. À l'inverse.
Très
voilà. Non, mais, tout ça pour dire qu'on essaie de décrypter les choses, que les torts, si on doit parler ainsi de manière un petit peu vulgaire, les torts sont partagés.
Les torts sont partagés. Disons, les Italiens ont vécu cette question des migrations au-delà de la chose en tant que telle. Mm-hmm. L'année dernière, il y a eu très peu de migrants, vraiment très peu. La baisse était de 80% entre 17 et 18. Hein? Donc, le problème n'est pas le nombre de migrants. Le problème est cette idée qu'on
d'abandon.
Puisse...
C'est
d'abandon.
La gestion de la crise.
Oui.
Ouais.
Ouais. Débrouillez-vous.
Exactement.
On fait une petite pause, messieurs, et puis je vous redonne la parole parce que, à côté de ce dossier migratoire, il y a évidemment le dossier européen. Les deux sont extrêmement et intimement liés. On fait le tour de la question sur ces relations France-italiennes jusqu'à 10h ce matin.
Dans ce contexte de crispation franco-italienne, on a tenu à vous communiquer le résultat d'une consultation électorale.
Oui,
Wendy Bouchard.
Grâce aux informations d'Alberto Toscano, qui est journaliste, politologue, écrivain en France, on s'intéresse à des élections qui font sens, élections régionales dans les Abruzzes.
Oui, cette région a voté de façon décalée par rapport aux autres régions.
Hier. Hein.
Le vote a été hier, mais le résultat en Italie arrive toujours très tard. Donc,
oui.
Les résultats sont de ce matin à 5h, 6h. Hein. Et donc, il y avait d'un côté un candidat de la coalition de droite, la Ligue, qui au gouvernement central est allié des 5 étoiles. Mm-hmm. Dans cette région se présentait dans l'alliance classique de droite avec Berlusconi. Mm-hmm. Et ils ont gagné. Le nouveau président de région est un homme de Berlusconi, soutenu aussi par la Ligue. Ensuite, il y avait la gauche qui gouvernait cette région et qui était donnée comme totalement perdante, mais qui a remonté par rapport au sondage et a obtenu la coalition de gauche a eu le 31% quand même. Et les 5 étoiles ont été écrasées. Ils étaient à 40% il y a un an aux législatives et ils sont à 18%.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que le gouvernement, l'expérience du gouvernement Ligue 5 étoiles ensemble profite à la Ligue et met totalement en difficulté le parti le plus populiste,
oui,
qui a un électorat très hétéroclite, qui sont les 5 étoiles. Mm-hmm. Et on peut imaginer, c'est pas exclu, qu'à partir de là et de cette tendance, il y ait un jour des élections anticipées en Italie avec la Ligue qui se représente avec la coalition de droite classique avec Berlusconi. Et dans ce cas-là, on aurait peut-être un retour de l'Italie dans une situation moins paradoxale que l'actuelle, qui voit cette coalition 5 étoiles Ligue. On aurait une coalition de droite, sans doute de droite, avec une influence de la droite dure, parce que la Ligue au Parlement européen est alliée de Marine Le Pen.
Hein? C'est ça, ce que j'allais vous dire.
Donc,
très
alliée.
Très alliée.
Oui.
Donc on aurait une coalition...
Ils font un meeting ensemble dans quelques jours.
Exactement. Oui. Donc d'un parti qui est membre de la famille populaire, avec les Républicains français d'ailleurs, comme le parti de Berlusconi et Forza Italia, allié d'un parti d'extrême droite...
Donc,
et de l'autre côté, les 5 étoiles reviendraient à l'opposition.
On peut faire deux observations. La première, c'est que effectivement, les 5 étoiles sont en perte de vitesse parce que la surenchère permanente de l'extrême droite, il faut bien le dire, Salvini qui a réussi en plus à raccrocher un peu Berlusconi, qui est quand même devenu maintenant très très faible, les 5 étoiles sont en perte de vitesse fortement. C'est celui qui crie le plus fort qui l'emporte et de loin vis-à-vis d'une grande partie de l'opinion. C'est lui l'homme fort maintenant de l'Italie. Ça, c'est la première observation. Et il y en a deux autres encore observations. Bref, deuxième observation, les choses vont s'aggraver encore bientôt entre les deux participants au gouvernement italien actuellement avec la ligne de chemin de fer Lyon-Turin. Les 5 étoiles sont contre la ligne de chemin de fer et Salvini, lui, sans trop le dire, est pour. Parce que ça fait des emplois, parce que ce grand tunnel qui coûte très très cher va permettre malgré tout de donner une image moderniste.
Oui.
Enfin, le côté, la droite dure a toujours aimé les grands travaux. Et la troisième, et là, il va y avoir un vrai risque de rupture, ou une vraie chance de rupture peut-être, si on pense plutôt qu'on ne les aime pas beaucoup. entre les deux groupes. Puis la troisième observation, c'est que, en fait, rien ne va vraiment se passer avant les élections européennes. Dans la mesure où tout le monde est en train de fourbir ses arguments pour les élections européennes, et le pari de Salvini, donc le nouvel homme fort, très fort et de plus en plus fort, comme les élections des Abruzzes l'ont montré la nuit dernière, le pari de Salvini, c'est d'amener au Parlement européen le plus d'eurosceptiques possible qui sont dans sa mouvance. Donc il n'y a pas de raison pour que les choses, il peut pas faire y avoir une crise pour l'instant. Il peut y avoir qu'une crise avec la France contre Macron, puisque c'est l'inverse, mais pas à l'intérieur de la coalition. Mais une fois les élections passées, alors tout va sauter.
Il faut que nos amis comprennent bien pourquoi on vous parle autant de la Ligue du Nord. C'est que pour Marine Le Pen, le rêve aujourd'hui politique s'appelle Matteo Salvini.
Bien sûr.
Qu'ils ont fait meeting commun, là ils en font prochainement. Ils en ont fait un ensemble à Fréjus en septembre dernier. Et voilà ce que disait Matteo Salvini. Avec des tracts, on a quand même des tracts du Rassemblement National avec le visage de Matteo Salvini.
Comme le rêve de Dupont-Aignan, c'est Bolsonaro, c'est-à-dire le type inconnu qui devient enfin président.
Oui,
mais tous ces gens-là
sont le regard
à l'extrême droite. Mais voilà pourquoi ça peut nous inquiéter aussi. Avec ces visages radieux de Marine et de Matteo, voilà, ils s'appelaient par leur prénom. Partout en Europe, nos idées arrivent au pouvoir.
Oui.
D'où le danger aussi d'une exportation de ce courant très populiste en France.
Oui, effectivement.
Par le courant national.
De ce point de vue-là, l'Italie est dans une situation bizarre parce que si on revient vers l'alliance de droite au gouvernement italien, après évidemment des élections anticipées, parce qu'avant il faut gagner l'élection pour prendre le pouvoir, alors on aurait une situation...
Normalement.
Pas directement. En démocratie. Quoi. Oui.
Mais dans ce cas-là, on aurait une situation plutôt inédite du point de vue français, parce que cette barrière qu'il y a en France entre un parti qui fait partie du groupe populaire en Europe, comme les Républicains, et un parti qui en Europe fait partie d'un groupe plus eurosceptique et plus extrémiste, cette barrière qui en France persiste serait brisée en Italie.
Est-ce qu'on doit craindre une escalade à la veille des élections européennes?
Oui.
Voilà.
Moi, je pense que oui.
On va prolonger cette réflexion juste après la pause, si vous voulez bien, Frédéric Mitterrand. Avec vous aussi, Alberto Toscano. Puis je voudrais quand même qu'on termine sur une note plus positive, ce qui nous rapproche. Christian Estrosi a commencé de le faire en préambule. Ce qui ne s'altérera jamais entre nos deux peuples. C'est important aussi de mettre cela en lumière un petit peu avant 10h. A tout de suite avec vous, Julie.
Europe 1. Un petit message qui nous arrive sur Facebook. On parle évidemment des relations franco-italiennes en ce moment. Je trouve l'intrusion de Luigi Di Maio importune. Il aurait pu se retenir. Les relations sont déjà tendues. Il faudrait arriver à rétablir les relations diplomatiques au vu du contexte européen actuel. On ne peut pas laisser l'Italie sans ambassadeur. Un coup de gueule, c'est bien, mais ils doivent parler. Mais combien de temps il va rester cet ambassadeur en France?
Une
ça
semaine,
va durer combien de temps?
Quelques jours. Oui.
Ah, c'est-à-dire pour consultation, c'est pour la
pas,
forme.
Nous, on ne veut surtout pas qu'on rappelle l'ambassadrice d'Italie.
Exactement.
Qui est en France, est absolument charmant. Qui est génial.
Et qui fait beaucoup pour le pays.
Je voudrais dire une chose.
Frédéric Mitterrand
qui
est avec nous, Alberto
Toscano. C'est que Di Maio va à Montargis, qui devient tout à coup la capitale
Di Maio, figure des mouvements 5 étoiles.
Oui, va à Montargis, qui devient tout à coup la capitale de la crise franco-italienne. Et pendant ce temps-là, parce qu'il y avait des gilets jaunes, et pendant ce temps-là, le ministre des Transports italien dit personne n'a envie d'aller à Lyon. Parce que lui, il est contre le tunnel.
Non, mais pourquoi Montargis? Pourquoi il a choisi cette ville-là?
Ces gilets jaunes étaient là.
Oui, enfin, il y a des gilets jaunes, il y en a partout.
Il voulait parler à ces
ceux-là, oui. Ah, bon. Ceux-là, les gilets jaunes de Montargis sont italianophiles, sans doute. Ils ont lu Stendhal, ils écoutent la Traviata,
c'est ça.
Ils adorent l'Italie.
Écoutez, en tout cas, la photo a circulé sur Twitter et a énervé passablement le gouvernement et Emmanuel Macron. Jean-Seb Desmarais sur le hashtag Europe 1 nous dit « L'Italie, c'est le pays d'un de mes auteurs préférés, l'immense Umberto Eco, dont j'aurais bien aimé avoir son avis sur ce différend entre l'Italie et la France. » Et Popote nous écrit « Amo tutto in questo paese. C'est le seul pays où je pourrais vivre si je devais quitter la France un jour. » Car vous parliez de frères, de fraternité. Les Italiens sont nos cousins. On aime tout dans ce pays. On a cette culture commune.
Le général de Gaulle, une fois, a dit à l'inauguration du tunnel du Mont-Blanc en 64... Et Il a parlé de cousine latine à la place de sœur latine. On lui a fait remarquer, il a répondu, mais entre sœurs, il y a toujours l'aîné. Tandis qu'entre cousines, il n'y a pas ce problème.
Oui, oui,
la relation est tellement étroite qu'on est des sœurs, mais on a peur qu'il y ait une aînée entre nous. C'est une relation merveilleuse, la relation.
Oui, en même temps, je vais mettre un petit peu de soufre là-dessus. Le général de Gaulle n'avait pas oublié non plus que l'Italie nous a déclaré la guerre le 10 juin 1940, quand on était complètement chaos. Et c'était quand même pas très bien. Hein. Ça veut dire qu'il y a quand même toujours des petits trucs qui traînent.
Ah hein, oui,
il ne faut pas oublier ça.
Oui, et un peu dans toutes les sphères.
C'est horrible, hein. 10 juin 1940, quand la lâcheté et l'arrogance intolérable de Benito Mussolini ont poussé cet individu à déclarer la guerre à la France, et quand pour la dernière fois de la relation franco-italienne jusqu'à aujourd'hui, mm-hmm. un ambassadeur français, dans le cas spécifique, c'était M. François Poncet, a été rappelé au Quai d'Orsay, étant à Rome.
Ben oui, il était rappelé, forcément, il ne pouvait pas rester.
Parce qu'il y avait la guerre.
Mais c'était la dernière fois.
C'était la dernière fois jusqu'au jour.
Oui, mais ce qui est assez touchant aussi dans cette histoire, c'est que quand les plénipotentiaires français sont allés à Rome pour signer la paix, bon, et la France, il n'y avait plus de France à ce moment-là, et ils sont tombés sur des messieurs qui étaient tellement désolés que tout le monde pleurait dans le salon. Ceux qui étaient vaincus et les pseudo-vainqueurs.
Qui avaient entraîné la France ici.
On a une histoire extraordinaire. Entre France. L'unité italienne n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide de la France, de Napoléon III, et dont les batailles, les noms des batailles que les Piémontais, à l'époque, comme M. Estrosi a dit tout à l'heure, l'Italie n'existait pas encore. On disait les Piémontais ont combattu avec les Français, Magenta, Solferino, sont gravés
unité
dans
italienne,
les villes françaises et italiennes.
Oui.
C'est les mêmes batailles. Donc, sans faire de la rhétorique, on a mille et une raisons pour être ensemble. Regardons loin, regardons vers l'Europe. Mm-hmm. Hein, et l'envers de l'Europe est le retour du nationalisme.
Très bien.
C'est une raison de plus pour aimer l'Europe.
C'est pour ça que j'adore ce discours optimiste. Et c'est ce que je vous ai demandé de mettre en avant aussi, chers amis. Cela dit, petite parenthèse culturelle, par exemple, Frédéric Mitterrand. Au Louvre, à la rentrée prochaine, les 500 ans de Léonard de Vinci, de sa disparition, doivent être célébrés. Le deal, alors, c'était que l'Italie prête un certain nombre d'œuvres de ce génie. Et finalement, le secrétaire d'État à la culture dit, bah non, on va revenir sur le pacte, parce que Léonard de Vinci était italien. Bon, il a servi 3 rois de France, il est mort en Touraine, mais ça ne l'intéresse pas. Donc voilà, encore une provocation.
Oui, mais vous aurez quelques hauts responsables culturels français. Je ne parle pas du ministre, hein. Je parle de responsables des musées qui vous diront « De toute façon, ce n'est pas grave, tout le monde leur a piqué déjà tous les Léonard de Vinci, ils en ont presque plus. »
Et puis on a la Joconde, ça suffit. Ouais. Mais donc c'est ça,
donc,
c'est
il faut relativiser cette animosité. Tout doit être relativisé et tout doit être vu comme une sorte effectivement de crise de ménage, de scène de ménage entre deux peuples qui sont cousins, frères, sœurs, enfin qui sont fusionnels en fait. Et ce qui était important dans ce que dit M. Toscano, qui a dit beaucoup de choses importantes, et dans ce que disait Christian Estrosi, c'est qu'effectivement il faut regarder vers l'avenir, vers l'Europe. Mais c'est d'ailleurs ce qu'ils regardent eux aussi, sauf que Salvini et Marine Le Pen n'aiment pas l'Europe. Donc tout le monde regarde vers l'Europe. Alors c'est toute l'histoire entre ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Ceux qui ne l'aiment pas, eh bien, ils profitent de la crise actuelle pour aggraver les choses.
On fait encore une petite pause avant d'entendre peut-être Michel, ou je vous dirai en tout cas sa réaction. Il nous écrit de Versailles au 39-21 pour témoigner et pour réagir aussi à ces relations perturbées entre la France et l'Italie, perturbées au niveau diplomatique et politique. Mais on a bien compris que je t'aime moi non plus était dans l'essence même de la coexistence, de cohabitation entre ces deux peuples, et il ne tient qu'à nous justement de préserver ces relations. À tout de suite avec Frédéric Mitterrand et Alberto Toscano, nos invités, jusqu'à 10h.
Le tour de la question sur la rupture diplomatique actuelle entre la France et l'Italie. Je vais vous lire un tweet qui nous est envoyé par Rodriguez et qui écrit en anglais « Italy is the heart of Europe ». Donc l'Italie, c'est le cœur de l'Europe.
«
Hold together for a free Europe and a peaceful world ». Soyons ensemble pour une Europe libre et un monde pacifique.
Bah voilà, quel beau message, Frédéric Mitterrand. Merci,
chose,
Julie,
Wendy,
pour
quand même qu'on voit l'avenir d'une manière sereine. Ça va peut-être faire sauter en l'air beaucoup de gens, mais l'Italie a civilisé la France. L'Italie a civilisé la France. Elle l'a civilisé dès l'époque de César. Elle l'a civilisé à la Renaissance. Louis XIV a construit Versailles en ayant les yeux sur Rome et sur les œuvres de Rome. La Villa Médicis, que j'ai eu l'honneur de diriger pendant quelque temps, était créée pour envoyer à Paris, à Versailles, les copies des grandes œuvres italiennes.
Que les artistes en résidence créaient.
Oui, et que des Français venaient copier les œuvres italiennes pour les envoyer en France. L'Italie nous a civilisés. Alors, il ne faut jamais l'oublier quand même, et lui garder, même dans une période qui n'est pas vraiment une période de rupture, qui est une période de crise, il faut quand même garder raison et l'affection.
Mais oui, et au contraire, profiter, j'allais dire, de ce qui se passe au niveau diplomatique, Alberto Toscano, puisque nous parlons de l'Europe, de la fragilisation du couple franco-allemand, alors que la France pourrait justement mieux tenir main à l'Italie aujourd'hui.
Il n'y a pas de doute sur le fait que aujourd'hui, la France et l'Italie ne sont pas capables, quelque part, d'avoir une politique commune, de créer des convergences, alors le rôle de l'Allemagne en Europe sera presque impérial. La réalité nous impose ça, mais en plus de la réalité, comme Frédéric Mitterrand l'a très bien dit, il y a les sentiments, il y a l'histoire, il y a la culture, et tout ça, il y a en plus l'économie. Parce que la France a fait des achats énormes dans des entreprises italiennes. Les grands noms de Gucci à Pomellato, à Berluti, à combien d'entreprises avec un nom italien.
Et les banques françaises sont détentrices de la dette italienne.
À Bulgaric, tout ce que vous voulez, au Cachemire de l'Europiane, tout appartient à des sociétés françaises. Donc, aujourd'hui,
crée un certain énervement aussi.
Et voilà, c'est toujours ces relations-là, entendu. Oui. Oui.
Non, je voudrais simplement dire aussi une chose, c'est que la France soutient les personnalités italiennes de dialogue et de construction également, comme Mario Draghi, qui est quand même un homme exceptionnel, qui tient, un des trois ou quatre hommes qui tient l'économie européenne,
qui est à la Banque centrale européenne,
à la Banque européenne, qui tient le fonctionnement économique de l'Europe et qui peut compter sur l'amitié, en tout cas, des Français. Donc, tout est... Il y a une crise, mais le fond des choses n'est pas atteint.
Qu'est-ce que vous retenez le plus d'Italien en vous après ce passage, notamment la Villa Médicis, Frédéric Mitterrand, et vous qui faites des allers-retours dans ce pays ?
Moi, je retiens Adriano Celentano, Claudia Cardinale, voilà. Je retiens Sofia Loren, je retiens Fellini. Je veux dire, le plus grand génie du cinéma qui a créé l'Europe, c'est Federico Fellini. On est absolument pénétré de culture italienne. On nous dit tout le temps qu'on est des enfants de l'impérialisme culturel américain, mais c'est pas vrai. On y a le cinéma américain, les livres américains, etc. Formidable. Mais l'Italie est omniprésente dans notre culture. Peut-être qu'on ne le souligne pas suffisamment parce que l'Italie n'exerce pas d'impérialisme politique.
Oui, vous avez raison. Oui, absolument. Et vous, Alberto Toscano, qu'est-ce que vous avez de très français en vous aujourd'hui encore?
Le fait de me trouver ici.
Ah bah, bien.
Dans une radio qui s'appelle Europe.
Européenne.
Merveilleux, non. Non, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une tempête dans un verre d'eau. Et les élections européennes passées, le 26 mai passé, tout reviendra un peu plus dans l'ordre. Et surtout, cette énorme dimension de collaboration, de besoin de collaboration et d'amitié franco-italienne aura le dessus une fois de plus.
Merci. C'est un verre d'eau effervescent.
San Pellegrino.
Un petit cachet d'aspirine. Viva Italia. Ciao à tutti.
Ciao.
Merci beaucoup. Merci messieurs Alberto Toscano.
Ciao Wendy.
Et ciao Frédéric.
Ouais.
Merci beaucoup pour votre présence. Et on va parler de voix, tenez, puisqu'on est dans les accents. Dans un petit instant, je vais recevoir Jean Abitbol, qui est phoniatre, qui est spécialiste de la voix. Il a enquêté sur le pouvoir des voix. Il les connaît aussi scientifiquement, de la voix de la maman à la voix de la maîtresse d'école, aux voix de grandes chanteuses, d'Edith Piaf à Maria Callas, c'est quelque chose. Hein. La science, l'art et l'émotion de la voix. À tout de suite sur Europe 1 avec Julie. Merci à tous.